CO2 mon amour, avec Ocofen, chaudière à granulés de bois, chauffage central écologique et économique. Rendez-vous sur ocofen.fr.
Bonjour à tous, heureux de vous accueillir dans ce magazine de nature et d'environnement qui empêche de polluer, de réchauffer, de penser en rond, en tout cas qui essaie, avec aujourd'hui à la technique Dauphard des Rides et Céline Bonhomme, assistée de Marion Lelay, de Jean-Christophe Pinaza, c'est Xavier Pestugia qui réalise cette émission. Allez, une petite humeur qui est dédiée à nos aînés, à cette épineuse question de l'âge de départ à la retraite, qui est la quadrature du cercle, ce que la médaille d'or est au patinage artistique en ce moment. Comment travailler plus pour travailler moins longtemps? Une question qui ne se pose pas pour nos cousins primates d'Afrique, d'Amérique et d'Asie, qui sont menacés non par l'allongement de l'espérance de vie, mais par la disparition de leur habitat, des forêts tropicales que nous grignotons jour après jour. Le rapport publié jeudi par l'Union mondiale pour la nature tire la sonnette d'alarme pour 25 espèces de primates menacées, parmi lesquelles nos charmants petits tarsiers, je ne sais pas si vous les connaissez, ceux-là de l'île de Siaou, mais on a aussi donc des gorilles de la rivière Cross, des orangs-outans de Sumatra, etc. En revanche, parmi les espèces de primates absolument pas en danger, et ce malgré les menaces régulières dont ils font les frais, vous avez les courtiers, gérants de fonds spéculatifs et autres boursicoteurs, pour qui l'âge de départ à la retraite, ce n'est pas un problème, étant donné que dans le métier, on a plutôt tendance à se retirer allègrement, fortune faite et cloison nasale défoncée vers les 40 ans. Alors, question que nous envoie un de ces jeunes et riches retraités. Que vais-je bien pouvoir faire de mes millions? Me reconvertir dans les jeux de hasard? M'offrir un jet privé? Pas du tout, détrompez-vous. Le nouveau sport à la mode chez les milliardaires retraités en manque d'objectifs trimestriels, c'est d'acheter des terres pour protéger la biodiversité. Oui, il y a un petit côté rédemption là-dedans, mais c'est ça. L'éco-baron de Basque, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle, eh bien l'éco-baron a gardé de ses années dorées une méfiance, bon, atavique vis-à-vis des interventions de l'État, bah bien sûr normal, ou bien de toute autre organisation collective. Donc pour sauver la planète comme pour le reste, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. On va prendre le cas d'un homme qui s'appelle Douglas Tompkins, 66 ans, pionnier de ces éco-barons, retraité de l'industrie de la mode, qui s'est offert au fil des années des centaines de milliers d'hectares de terre au Chili et en Argentine, et nous promet donc de les restituer dès que possible aux éléphants de mer, aux cerfs de la pampa, aux fourmiliers, aux nandous, etc. Un boulot qui n'est pas facile quand on est un gringo yankee et qui débarque de son avion pour expliquer aux agriculteurs du coin qu'ils doivent mettre la clé des champs sous la porte et oui, pour laisser revenir les plantes et les bêtes sauvages. Pas sûr qu'il serait très bien accueilli dans les Alpes ou dans les Pyrénées, cet homme-là. Bilan de l'opération, depuis quelques années, les éco-barons au compte en banque bien garni se bousculent au chevet de la Patagonie et la biodiversité commence à augmenter. Alors dites-moi, chers amis auditeurs, auditeurs de CO2 mon amour, et nous, si nous n'attendions pas l'âge de la retraite pour revitaliser la planète et nous sauver nous-mêmes. Ce serait pas mal, hein ? Au menu du jour, alors pour le côté tout à fait universel, ce sera Jean-Marie Pelt avec des plantes. On va parler de pharmacopée avec lui à travers son ouvrage Les dons précieux de la nature. Pour l'actualité, Made in France, ce sera notre duo avec Nathalie Fontrelle. Et puis pour le local, la connaissance, le rêve, direction ce très beau département du Jura.
Quand le lynx est revenu, j'avais 6 ans quand il est revenu dans le massif jurassien. Et puis on disait un petit peu tout et son contraire sur cette espèce. Donc en grandissant, j'ai essayé de me renseigner dessus. J'étais garde réserve naturelle, donc j'ai pu travailler avec des scientifiques qui suivaient l'espèce. Et puis c'est en accumulant un petit peu cette somme de connaissances et ces informations sur différents suivis effectués un petit peu partout en Europe que j'ai voulu apporter des informations objectives. D'arrêter la rengaine des antilles et des pro-lynx en disant « attendez ». Parce que je me rappelle quand on a appelé ça la crise du lynx dans le massif jurassien, suite aux attaques sur les moutons. D'un côté, c'était un animal sanguinaire qui allait vider les forêts jurassiennes. Pour les gens qui étaient en face, c'était un gros chat sympa qui se nourrissait que de souris, donc personne ne savait vraiment qui il était. Donc il fallait absolument apporter ces informations objectives.
On a une base commune, quoi, pour que l'on comprenne bien.
Et après, voilà, chacun défend son intérêt, mais qu'on parle déjà de la même chose.
Voilà, donc on va découvrir cet animal. On va pas le voir, non, c'est très compliqué pour le voir. En tout cas, on aura vu les traces, donc ça va être avec Patrice Redley, donc ce sera notre reportage. Et puis nous débutons en musique grâce à Muriel Pérez et Fool's Gold. We'll be right back. Voilà, bonne route, hein, et restez avec nous parce qu'il va faire beau dans cette émission France Inter. Il est 14h10 et on vous souhaite un bel après-midi. Respirons un grand coup, on va vous soigner. Bonjour Jean-Marie Pelt.
Bonjour Denis, bonjour à tous.
Alors nous allons parler de la terre, mère des plantes qui guérissent. Nous sommes toujours donc dans les dons précieux de la nature. On va quand même rappeler que les trois quarts de l'humanité se soignent aujourd'hui avec les plantes. Et maintenant ça revient en mode. Alors racontez-nous comment s'est passé un peu ce va-et-vient.
Oui, il y a en fait trois sources en ce qui concerne les plantes qui guérissent. Alors pour le coup, je suis dans ma spécialité. Il y a d'une part les plantes utilisées par les guérisseurs, qu'on appelle globalement dans le monde entier les tradipraticiens, ceux qui appliquent une tradition héritée de leurs parents généralement. Il y a ensuite les mamans qui soignent leurs bébés avec des plantes qu'elles connaissent, c'est la médecine dite populaire. Et puis, il y a les traités écrits concernant les plantes qui guérissent, notamment dans les grandes civilisations comme la Chine, l'Inde, le monde arabe, arabo-musulman, où on a des traités qui remontent parfois très loin, en Chine qui remontent avant Jésus-Christ.
Et c'est ça qui a alimenté notre pharmacopée ?
Et c'est ça qui a alimenté notre pharmacopée, nos médicaments. Ce sont des médicaments qui sont à l'origine issus de ces plantes. Alors à partir de la fin du XIXe siècle a commencé le règne de la chimie. des molécules de synthèse de plus en plus nombreuses ont été produites. Et on a aussi, en même temps, inventé la pharmacologie expérimentale, c'est-à-dire comment on teste ces molécules. Et c'est instauré un système qui fonctionne toujours actuellement. Une molécule interagit sur une réaction biochimique à l'intérieur du corps et produit un effet thérapeutique, en l'occurrence, c'est ça qu'on recherche. Et c'est comme ça que ça fonctionne actuellement. Et ça fonctionne essentiellement avec des médicaments qui viennent de la chimie, de la pétrochimie essentiellement. Alors il y a eu une formidable évolution. Quand j'ai passé mon agrégation, c'était en 1961, sur les plantes qui guérissent, on nous a dit qu'il n'y aura plus cette option aux agrégations futures parce que maintenant les plantes, ça ne sert plus à rien, la chimie les a remplacées. Et donc nous étions presque, si vous voulez, des militants des plantes par rapport à la thérapeutique. Et puis on s'est aperçu que c'était vrai et que très majoritairement, les nouveaux médicaments étaient des médicaments qui venaient de la chimie. Et ceci a raison à peu près d'une quarantaine par an qu'on avait testé pendant une douzaine d'années. Et nous sommes encore dans ce système. Mais quelque chose a changé. C'est que on a testé tellement de molécules qu'on n'en a plus beaucoup. Alors, on a un petit peu vidé le filon de la chimie. Et maintenant, il y a une tendance à revenir vers les plantes. C'est une tendance qui est assez récente, mais qui se confirme, me semble-t-il, par les chiffres. On trouve moins de médicaments uniquement par la chimie. Et si on veut retourner aux plantes, on bute alors sur un problème nouveau, c'est qu'il y a la fameuse convention de la biodiversité de l'ONU qui fait que si vous voulez utiliser une plante médicinale d'une ethnie particulière, il faut renvoyer à cette ethnie des royalties. Alors ça embête l'industrie pharmaceutique parce que ça limite sa liberté de manœuvre. Mais c'est ce qui se fera et c'est ce qui se fait. Maintenant, si on étudie les choses classe par classe pharmacologique, on s'aperçoit que dans une maladie comme le cancer, près de la moitié des grands médicaments du cancer sont originaires des plantes. Alors, où ça achoppe actuellement, c'est sur les antibiotiques. Oui. On ne trouve plus de nouveaux antibiotiques, on n'a pas trouvé depuis de nombreuses années une nouvelle classe d'antibiotiques.
Et la résistance est forte.
Et les résistances sont de plus en plus fortes, et les maladies nosocomiales avec des staphylocoques dorés ou d'autres germes qui sont résistants à tous les antibiotiques peuvent se produire dans les hôpitaux. Donc là, on a une vraie crainte. Alors les antibiotiques ne viennent pas des plantes, mais viennent des bactéries et des champignons, qui sont des êtres vivants, qui font partie de la biodiversité. Moi, je suis très frappé de voir que l'on a fait de la publicité pour qu'on consomme moins d'antibiotiques, ce qui était tout à fait raisonnable, c'était bien de le faire, et qu'en même temps, on ne rembourse pas les essences aromatiques qui ont les mêmes propriétés, pas avec la même intensité, mais qui, pour les petits enrhumements comme celui que j'ai et qu'on entend à ma voix, sont tout de même efficaces. On ne les rembourse pas. Donc il y a des contradictions dans la politique de la santé qui sont tout à fait étonnantes. On pourra faire une émission spécifique là-dessus un jour, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Voilà. Alors, pour les maladies cardiovasculaires...
30% des décès dans le monde.
30% des décès dans le monde, 18 millions par an. Hein, le cancer, c'est 13%. Les maladies cardiovasculaires, c'est donc la cause de mortalité la première. Il y a toujours eu des plantes qui ont été très efficaces pour le cœur, la digitale, l'oabayo, etc. Ont été des grands médicaments du cœur, le sont toujours. Et puis maintenant, on recherche des médicaments qui pourraient couper la faim. Alors ça, c'est un problème compliqué, parce que quand on devient obèse, c'est parce qu'on mange trop. Comment manger moins quand on n'est pas assez fort mentalement pour s'imposer un régime drastique, est-ce qu'il y aurait des plantes qui pourraient être efficaces? Alors il y en a plusieurs qui sont actuellement à l'étude, notamment une de la Namibie, des déserts du sud africain. Bon, je dis « serait », je mets un conditionnel, parce que c'est un domaine où on a été beaucoup déçus. Les coupe-faim ont été souvent des stratégies thérapeutiques dangereuses. Alors, est-ce que le fameux Houdia, puisque c'est comme ça que s'appelle cette plante qui est en cours d'essai clinique actuellement sera efficace pour être un coupe-faim, eh bien nous le saurons la prochaine fois, lors de nos prochaines aventures. Il y a aussi l'estragon, alors ça c'est tout à fait étonnant.
Pour lutter contre le diabète.
Oui, pour lutter contre le diabète. Alors ça a l'air de marcher, il y a des essais cliniques qui sont en cours, et si ça aboutit, nous aurons là un nouveau médicament qui pourrait apparaître dans les années qui viennent. Et puis, alors, il y a aussi les plantes en cosmétologie, où on utilise de plus en plus de plantes. Tout le monde de la cosmétologie est maintenant orienté vers des produits naturels. Je le vois chez des entreprises que je connais bien, comme Rocher ou comme Clarins, qui sont très branchées plantes. Et ce qui me plaît dans les deux cas que je cite, c'est pour ça que je les cite, c'est que ce sont des gens très écolos. Donc, en résumé, on peut dire qu'il y a une remontée très importante des plantes en thérapeutique, et que c'est ce que les gens veulent. Parce que beaucoup de maladies fonctionnelles, qui ne sont pas très typées, mais qui sont des maladies de civilisation, peuvent être très améliorées par les plantes. C'est pourquoi il est tout à fait déraisonnable, par exemple, de faire sauter le remboursement de l'euphytose, qui sont un mélange de quatre plantes sédatives qui permettent de dormir. On ne le rembourse plus, c'est une erreur colossale.
Oui. Et donc, à travers votre discours, une fois de plus, sans dire que tout ceci va sauver l'humanité, il y a énormément de plantes dont on ne connaît pas encore les vertus et qu'on espère pouvoir utiliser demain. Donc, faisons attention à cette biodiversité.
Tout à fait. Actuellement, sur les 270 000 espèces de plantes terrestres, comparativement aux algues, qui sont aussi très nombreuses, des centaines de milliers, sans aucun doute, d'espèces. On en connaît, en ce qui concerne les propriétés pharmacologiques, moins de 10%. Et on connaît bien les propriétés pharmacologiques de moins de 1%. Donc il y a du travail pour des milliers d'années pour les chercheurs. Et on découvre en particulier de nouvelles formules chimiques dans les plantes. On découvre aussi que souvent une plante est active par un ensemble de constituants et pas par un seul constituant. Donc il faut aller vers une phytothérapie intelligente qui est tout à fait possible et que les organes publics ne respectent pas comme elles devraient le faire parce qu'on est encore sur l'ancien système, une molécule, une action. Eh bien, le corps est immensément complexe. Et il est tellement complexe que des mélanges de molécules peuvent produire des actions très positives aussi.
Merci Jean-Marie Pelt, les dons précieux de la nature, vous retrouverez donc cette histoire. Au revoir Jean-Marie.
Au revoir Denis, au revoir à tous.
Je paierai.
Qu'est-ce que c'est bien ça? Donc une nouveauté, Françoise Hardy, c'était noir sur blanc et tacheté sur fond blanc, vous allez comprendre. Voici le lynx.
Didier Méjard, on est là avec vos chevaux. Mais sur le lynx, vous en avez déjà croisé, vous, du lynx?
J'ai vu une fois un lynx, mais malheureusement pas à cheval, pas en randonnée.
Ouais.
C'était du temps où j'étais fumeur et j'étais en manque de cigarettes. Et à minuit moins le quart, je cherchais désespérément un tabac ouvert. Et ici, c'est pas facile.
Et
dans les phares de ma voiture, j'ai vu ce magnifique animal. Comme tous les gens qui en ont vu, on s'en rappelle toute notre vie, quoi, d'avoir vu un... Je pense que le lynx m'a vu souvent. Moi, j'ai l'impression que le lynx est plutôt bien accepté par les Jurassiens. Il n'y a pas de gros problèmes. Quand il est arrivé, il y a eu beaucoup d'inquiétudes. Le lynx est arrivé au début des années 80, fin des années 70. Et il y a eu beaucoup d'inquiétudes. Et pour finir, moi, il n'y a pas de gros problème avec le lynx. Moi, je parle toujours d'un de mes amis qui élevait des moutons à côté du lac de Vouglans. Je lui avais posé la question dans les années 80. Mais enfin, Louis, t'as pas de problème avec le lynx. Il m'a donné cette réponse où il résume tout le problème. Il m'a dit, écoute Didier, quand je trouve une brebis morte, je prie le ciel pour que ça soit le lynx. Parce que si c'est le lynx, j'ai gagné ma journée. Et il rajoute, malheureusement, 9 fois sur 10, c'est pas le lynx, c'est des chiens errants.
L'homme que vous avez entendu s'appelle Didier Méjard et c'est un homme des forêts, de randonnée à cheval, aux quatre lacs, dans le Jura. Et donc il pose le décor du lynx, je dirais à sa façon, hein, c'est-à-dire sous l'angle de la cohabitation avec l'homme. Et comme peut-être au péage d'autoroute tout à l'heure, vous avez peu de chance d'en croiser ces lynx, je vais vous rappeler rapidement que notre félidé avec ses 130 kilos et 1m30 de muscles ne ferait qu'une bouchée de votre chat qui est sur la plage arrière, pourtant caïd de votre quartier, bah oui. Je vous rappelle qu'en 1885 en France, l'homme, moi Tarzan homme fort, avait éradiqué consciencieusement tous les lynx. Et puis quand même, dans les années 70, une conscience écologique pointe le bout de son nez. Alors on en relâche d'abord en Suisse, et puis chez nous, dans les Vosges, en 1983. Et puis en 20 ans, on a quand même, au cours de ces 20 dernières années, on a vraiment accumulé plus de connaissances sur la biologie de l'espèce qu'au cours des 20 derniers siècles. Donc maintenant, comment il se déplace, se nourrit, comment il vit, comment il batifole, comment il joue au loto, maintenant on le sait. Un petit rappel encore, c'est que pour le voir, même en se levant de bonne heure, je crois qu'on peut toujours courir. Notre lynx, il est devenu montagnard parce qu'il a été chassé de la plaine, comme les ours et les loups. Mais plus que l'altitude, il va rechercher avant tout, vous savez, ses zones escarpées pour ses gîtes diurnes. Alors il a une belle gueule, hein, c'est un bon produit d'appel maintenant pour la région, pour la Franche-Comté, mais il y a quand même eu 20 ans de boulot d'association derrière pour le faire accepter. Aujourd'hui, c'est un des emblèmes du Jura, parce qu'il n'y a pas que le vin jaune, le comté ou Louis Pasteur dans la vie. Et il nous faut, pour le découvrir, un photographe, un écrivain, un naturaliste. Il s'appelle Patrice Redley. C'était au début de la semaine dans la région des lacs, c'est-à-dire autour de 1000 mètres d'altitude. On est au pied du pic de l'Aigle. On est dans un pays de combes, de reculés, de montagnes boisées. On est en limite du parc régional du Haut-Jura. Et c'est parti à la découverte de ce lynx. On aurait peut-être dû prendre les raquettes là, aujourd'hui, Patrice Redley, mais enfin quand même... On s'en sort parce qu'on a quand même des bonnes chaussures. Bonjour à vous Patrice.
Bonjour Denis.
On est en train de pénétrer dans le territoire du lynx. Alors, il n'a pas fait forcément les eaux et forêts, ni l'engreffe, mais c'est quand même un forestier, hein, notre lynx.
Tout à fait. De toute façon, son milieu de prédilection, c'est le massif forestier. Il a besoin de toutes ces zones un petit peu fermées pour pouvoir vivre et chasser. C'est ouais. Un bon sprinter qui peut aller assez vite. Par contre, il a un petit cœur, donc il peut pas poursuivre son effort très longtemps.
C'est pas un marathonien, quoi. Hein. Il pique des sprints, mais c'est tout, quoi.
Voilà, c'est un petit sprinter. Et puis, a priori, quand il a loupé sa proie, il ne court pas au-delà de 40-50 mètres derrière, parce que de toute façon, il sait qu'il la rattrapera pas. Dans ces périodes de fort enneigement, il va rechercher, comme on voit en face de nous, des zones rocheuses pour aller s'abriter et se mettre à l'abri des intempéries en journée. Il va redescendre dans la rivière ou en lisière forestière pour essayer de chasser un chevreuil. Et puis, le temps qu'il va exploiter le chevreuil, il va rester juste en face de nous, là, dans cette zone rocheuse. Ouais. Et il redescendra régulièrement pour exploiter sa proie.
Si on aime bien les photos de lynx, hein, que l'on retrouve bien sûr dans vos différents ouvrages, Patrice Redley, c'est parce que c'est un gros chat, d'accord, mais avec quand même des canines bien acérées. Et puis, il y a les fameux petits toupets au sommet des oreilles.
À quoi ça sert ces toupets?
Alors les toupets qu'on appelle des pinceaux, ce sont des petites touffes de poils de 3, 4, 5 cm qui sont placées au-dessus des oreilles.
Ouais.
L'hypothèse scientifique la plus plausible serait que ça sert d'antenne. Dans un milieu forestier où le lynx a besoin de connaître un petit peu ce qui se passe au niveau auditif, ça permettrait de faire comme des petites paraboles qui dirigeraient le son vers l'intérieur des oreilles.
Alors, il a un odorat incroyable. Il doit aussi avoir une vue quand même qui n'est pas trop mauvaise.
Bah, il a une vue mais qui n'est pas du tout ce qu'on a décrit depuis l'Antiquité. Avoir des yeux de lynx, ce n'est pas vraiment ce qu'on pense.
Alors,
mais
oui,
par contre, il a une très bonne vue dans la pénombre. Comme il a des pics d'activité qui sont plus élevés à l'aube, au crépuscule et à une certaine partie de la nuit, il est adapté pour chasser dans cette période de clair-obscur.
Ah, okay.
Par contre, son odorat, il ne s'en sert pas vraiment pour la chasse, mais plutôt pour les contacts entre individus, grâce aux marquages qu'ils peuvent faire sur leur territoire. C'est plutôt pour rechercher justement les marquages, les dépôts d'urine des autres individus, mais pas pour la chasse.
Alors cet animal, à mon avis, ne doit pas forcément écouter les conseils qui consistent à manger 5 légumes et 5 fruits par jour. Quel est son régime alimentaire?
Il est exclusivement carnivore. Dans le Jura, c'est à peu près 90% de chevreuils et de chamois. Le reste, ça peut être... des lièvres, des renards.
Ah, il a quand même une qualité, c'est que dans son régime alimentaire, l'homme ne l'intéresse pas.
Tout à fait. L'image du lynx, quand il est revenu dans le Jura, au milieu des années 70, c'était l'image d'un animal sanguinaire et farouche.
Oui.
Ce qui est totalement faux. Et on s'est aperçu maintenant que le lynx n'a pas peur de l'homme, ne le fuit pas s'il n'est pas surpris. Il ne cherche pas à l'attaquer. Alors je dis souvent aux petits jurassiens quand je fais des animations que pour le lynx, l'homme représente un petit peu la vache montbéliarde. Oui. Il va creuser une vache sans vouloir lui sauter dessus parce que c'est pas une proie, mais il n'en aura pas peur non plus. C'est exactement pareil pour nous.
Non, ça enfonce pas trop, là, ça va encore. Pas quand même, jusque...
Je l'ai un petit peu, là, il fait doux encore ce matin, mais il y a 15 jours, j'ai essayé de couper des pistes avec un ami dans le Houdou. Au petit matin, on avait une belle journée comme ça, ensoleillée. Par contre, il faisait moins 32. Donc, comme on dit chez nous, ça piquait un petit peu.
Là, je vous laisse faire parce qu'on voit quand même des traces un peu partout. Bon, là, c'est manifestement pas des traces de lynx, mais qu'est-ce que c'est, ça?
A priori, c'est du chevreuil.
Ouais.
C'est un bon exemple puisque ça correspond tout à fait au milieu de chasse du lynx. Donc là, on arrive dans une petite clairière au milieu de la forêt.
Ouais.
Et on voit que le chevreuil, la piste de chevreuil, suit la lisière du bois. C'est exactement où le lynx se place pour chasser. Il va essayer de se planquer par là pour tendre une embuscade, justement, lorsque les chevreuils sortent du bois pour aller pâturer dans la clairière. Ouais. C'est là, en principe, que le lynx va déclencher son attaque.
Comment il signe son crime lorsque l'institut médico-légal donc arrive pour dire « Attendez, là c'est un lynx » ou bien « Je sais pas, c'est un chien errant », etc. Il y a vraiment la signature du lynx?
Il y a la signature du lynx, mais qui ne se voit pas forcément extérieurement, je dirais, sur le corps de la victime. Ouais. Donc pour cela, il faut faire une expertise. On coupe au niveau de la gorge, on sépare en deux la peau du cou.
Ouais, j'aurais pas dû vous lancer parce que là, on est un samedi après-midi. Ah oui, d'accord, continuez quand même.
Qu'on écarte, qu'on dispose comme ça, et il suffit de mesurer l'écartement des canines et le diamètre des canines pour avoir vraiment la signature du lynx.
Oui, donc c'est quand même les canines qui sont évidemment dans le cou, quoi.
Tout à fait, parce que comme tous les félins, la plupart des grands félins, le lynx tue les grosses proies par étouffement, donc il les attrape au niveau de la gorge et il étouffe les proies.
Alors, petite clairière, scintillement de la neige, la poudreuse.
Ah, là, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose. On va peut-être se rapprocher pour voir les traces. Voilà, regardez, il est passé par là.
Voilà, d'accord.
Donc là, on voit la... Voilà, elle est assez bien faite. Une belle trace de lynx, donc c'est à peu près... Grosso modo, ça tient dans un cercle de 9 à 10 cm
ah oui.
de diamètre.
C'est-à-dire que c'est à peu près les traces de mon chat, mais en XXL, quoi.
Voilà, tout à fait. Donc là, on voit un petit peu les pelotes digitales en forme d'olive,
oui,
qui sont complètement décentrées. C'est pas une trace bien faite. Et puis là, on voit qu'il a marché dans de la neige un petit peu givrée, puisque on devine, c'est un petit peu en avant des pelotes plantaires, on devine les traces de griffes. Dans certaines conditions, le lynx marche avec les griffes sorties justement pour mieux se cramponner le sol. Là, on a peut-être une chance sur ce être de voir des traces de griffes. Donc ça, c'est aussi... C'est aussi une façon pour le lynx de marquer son territoire, de marquer son passage. En griffant un arbre comme il l'a fait ici, il laisse des traces visuelles, mais également des traces olfactives, puisqu'il a son odeur sous les pelotes plantaires qui va frotter contre le tronc du hêtre.
Ah oui, donc ça veut dire, tu es un autre lynx, tu rentres chez moi, fais attention à ta tête, quoi. Enfin,
voilà, bien qu'il n'y ait, à ma connaissance, qu'une seule séquence de conflit qui a été observée entre deux lynx sur un même territoire, c'est passé en Suisse il y a quelques années.
Oui.
Mais en principe, justement, le fait d'avoir des bandes de marquage, donc de visualiser la présence du lynx, soit par les traces de griffes, soit par l'odeur, mais surtout, notamment, le marquage olfactif par l'urine, évite justement qu'il y ait ces conflits entre les animaux. Il y a un respect du territoire du lynx, c'est pour ça que la plus grande difficulté du jeune lynx...
C'est de trouver un territoire
vacant, puisque dès qu'il y a un territoire occupé, il doit aller au-delà de cette zone occupée.
Alors on a un silence ouaté, juste des petits oiseaux qui sont là quand même, donc qui eux aussi marquent leur territoire. Hein, là, c'est pas la période où ils font les beaux, mais c'est quand même pour dire « je suis là, je suis chez moi ».
Tout à fait, là, bon, c'est les quelques passereaux qui restent chez nous en hiver, donc on peut entendre quelques mésanges, des merles qui parlent ou qu'on effraie quand on passe le long d'une lisière. C'est toujours la petite mélodie sympa qui va agrémenter les balades dans la neige.
Patrice, nous avons donc sûrement quelques lynx là qui sont en train de nous écouter avec beaucoup d'attention et qui écouteront donc l'émission sur France Inter. Mais s'ils n'étaient plus là, à quoi ressemblerait ce territoire ?
Fondamentalement, il n'y aurait pas forcément de changement visuel. Par contre, au niveau de l'interaction entre les espèces, il y aura un gros chamboulement. Ce qu'on ne veut pas comprendre, c'est qu'il y a des interactions entre toutes les espèces et que les prédateurs ont un rôle essentiel à jouer dans l'écosystème. Ce sont eux qui gèrent et qui équilibrent justement la présence de toutes ces espèces. Donc sans lynx, après on peut le voir, on l'a vu aussi, ça a été montré à Yellowstone quand on a exterminé les loups, les zones se referment ou d'autres zones sont plus ouvertes parce que davantage pâturées, puisqu'il y a des hardes d'ongulés qui sont de plus en plus importantes, il n'y a plus de prédateurs pour juguler un petit peu tout ça, toute cette présence. Il y a une dégénérescence des herbivores également, puisqu'il peut y avoir de la consanguinité, il n'y a plus de sélection naturelle qui est faite. Donc le prédateur a un rôle essentiel dans la nature. Et ça fait pourtant des siècles qu'on essaye d'éliminer tous ces prédateurs, que ce soit la fouine, la martre, le renard, le loup, le lynx. Ça, simplement pour des intérêts, synergétiques, parce que on veut pas que ça nous bouffe les faisans qui sont relâchés ou les perdrix qui sont relâchés au début septembre pour les tirer deux jours après.
Alors je vous le disais, donc Patrice Redley, l'homme est aussi photographe et écrivain, donc il a écrit Le lynx boréal, il s'agit bien de celui-là, donc dans le Jura, ainsi qu'un autre livre, Le chat forestier, c'est chez Delachaux et Niestlé, et puis aussi Instant félin, ça si vous aimez les chats, vous verrez ça, alors vous avez toutes les indications grâce à Anne Gouzon sur le site de CO2 Mon Amour, et puis il est aussi le président du pôle des grands prédateurs du Jura, donc ils ont fait un boulot absolument formidable, à la fois donc de communication, de protection sur les troupeaux, d'études scientifiques, donc ce pôle des grands prédateurs du Jura, aussi sur le site de CO2 Mon Amour. Et dans quelques instants, ce sera une cavalière à cheval, Nathalie Fontrelle, qui se prépare pour l'actualité de l'environnement.
CO2 Mon Amour, c'est petite émission qui respire sur France Inter.
CO2 Mon Amour, Denis Chessou.
Baby did a bad, bad thing. Baby did a bad, bad thing. Baby did a bad, bad thing. You ever loved someone so much you thought your little heart was gonna break in two? I didn't think so. You ever tried with all your heart and soul to get your lover back to you? Go on, I hope so. You ever pray with all your heart and soul just to watch her walk away? Baby did a bad thing. thing. Maybe it's a bad, bad thing. I feel like crying. Feel like crying. You ever toss and turn your light awake and thinking about the one you love? Bad thing, baby, it's a bad, bad thing. Baby, it's a bad, bad thing. And I feel like crying. I feel like crying.
C'était en 1995 et c'était Chris Isaak et en 2010 c'est Nathalie Fontrelle. Bonjour Nathalie.
Bonjour Denis, bonjour bah, à tous.
On fait ce qu'on peut. Vous n'avez pas vu de lynx vous non vous
Et non, c'est pas faute d'avoir essayé, j'ai vu des traces mais jamais la bestiole.
Et bah, c'est ce qu'on a fait nous aussi. Allez, on y va dans notre actualité de l'environnement avec donc la facture énergétique de la France qui a souffert des vagues de froid que l'on vient de connaître.
Avec un réseau électrique malmené, hein, vous le savez, surtout dans les régions comme la Bretagne ou PACA qui sont en sur-régime. Mmh. Alors le système français n'est pas exemplaire, hein, même pour le climat, puisque lorsque tout le monde consomme en même temps, eh bien on démarre des centrales thermiques au fioul et au charbon et donc on émet du gaz carbonique.
Mais sans compter la quinzaine de centrales à gaz qui sortent ou qui vont sortir de terre. Alors rendre les réseaux électriques intelligents pour réduire notre consommation, c'est le plan qui vient d'être présenté par le ministère de l'écologie.
L'informatique au secours de la sobriété. Comme si notre cerveau était décidément incapable de gérer correctement cet enjeu, c'est-à-dire des trucs tout bête, hein, éteindre les lumières en sortant pièce. Non. Appuyer sur le bouton de la machine à laver en dehors des heures de pointe.
Oh, mais vous n'y pensez pas.
Donc, apparemment, on ne saura jamais faire. L'informatique va donc nous sauver.
Voilà, parce que faire des économies, c'est un gros mot encore dans notre pays. C'est quand même une révolution, cette affaire-là. Hein.
Et oui, parce que jusqu'à présent, la politique énergétique française consistait à investir pour répondre à la demande. Ah oui. Toujours plus, nous consommons plus, il faut produire plus. C'est terminé, d'après le ministre de l'écologie, Jean-Louis Borloo.
La demande est terrestre, hein, on appuyait sur un bouton et puis on appelait, hein, tout simplement de manière, j'allais dire presque brutale. Il va falloir qu'on adapte notre consommation aussi aux capacités de production.
Mais comment fait-on ? Est-ce qu'on agit sur le prix de l'électricité pour que les gens diffèrent leur consommation ? Comment fait-on ?
Ben, on agit sur du stockage. Je vous donne l'exemple. Vous avez une voiture électrique, vous rentrez à 19h. Si vous appelez la centrale électrique à 19h pile, tout le monde va appeler en même temps et on va être sur un pic plus élevé. En revanche, on peut stocker l'énergie ou il peut y avoir une information qui fait que l'utilisateur, la personne, vous ou moi, n'utilisera la voiture que le lendemain matin à 7h15. Et donc, le réseau peut recharger la batterie entre 3h et 3h15 ou 3h30 dans la nuit. C'est ça la gestion intelligente de la consommation. Hein, à 19h, si tout le monde vient recharger sa voiture, ce qui amènerait à du carbone à peu près équivalent aux voitures thermiques, alors que si on peut gérer les réseaux, on peut être pratiquement à de l'énergie décarbonée.
Oui, mais là, attendez, la voiture électrique pourrait ne pas être sobre en CO2 ?
Incroyable, n'est-ce pas ? Eh oui, si vous la rechargez aux heures de pointe, au moment où tout le monde tire sur le réseau, elle utilise de l'électricité produite avec des combustibles fossiles, elle émet donc l'équivalent de 165 grammes de gaz carbonique au kilomètre parcouru, plus qu'une voiture thermique qui en moyenne est à 140 grammes.
D'accord.
En revanche, si vous la chargez en pleine nuit, par exemple, lorsqu'il y a peu de demande, eh bien elle émet l'équivalent de 18 grammes seulement.
Donc l'idée c'est de se lever la nuit pour brancher sa voiture.
Bah oui, pourquoi non,
hein
non,
oui, moi,
non, en fait l'idée c'est de confier au système informatique la liberté de la mettre en charge au bon moment.
Mais alors ces systèmes-là, ils existent déjà, intelligents ?
Oui, ils existent. Ils existent pour les grands bâtiments. Donc l'idée, c'est de les généraliser à l'habitat individuel. Écoutez, Gilles Vermeau-Desroches, c'est le directeur du développement durable de Schneider Electric.
Aujourd'hui, on a des solutions d'efficacité énergétique actifs qui fonctionne dans les bâtiments, particulièrement les bâtiments tertiaires ou les grands bâtiments utilitaires, l'hôpital, l'hôtel, le centre commercial et bien d'autres. L'enjeu de demain, c'est de pouvoir avoir les mêmes outils dans la maison individuelle. On sait que la consommation de l'ensemble des bâtiments, c'est 72% de la consommation finale d'énergie, dont 30% dans les grands bâtiments dont je parlais, donc tout le reste dans le bâtiment tertiaire. Pour les grands bâtiments aujourd'hui, on voit que l'ensemble des produits d'efficacité énergétique active du bâtiment permet une réduction de 30% de la consommation énergétique. L'enjeu de 2010, de 2011, c'est d'offrir les mêmes services, les mêmes produits pour la maison individuelle. Et au fond, l'enjeu, c'est de faire de notre maison un lieu d'intelligence comme l'est devenue la voiture. Vous savez que dans votre voiture, vous avez un signal quand la porte est ouverte, un signal quand votre ceinture n'est pas attachée, etc. Et que l'ensemble de ces signaux ont contribué à l'amélioration de la sécurité. Eh bien, demain, avec ces mêmes capteurs, on va être en capacité dans la maison d'arrêter le chauffage quand la fenêtre est ouverte, d'éteindre la lumière quand il fait très jour dehors. L'ensemble de ces produits devrait avoir un retour sur investissement de 2 à 3 ans.
Une petite parenthèse quand même, tout à l'heure on parlait de la voiture électrique, ça ne résout pas le problème de la mobilité. C'est-à-dire que c'est une partie de la réponse donc, au pétrole qui est remplacé en grande partie par le nucléaire, car je sens vos mails évidemment se pointer. Alors on va quand même se dire une chose là, c'est que l'informatique ça consomme quand même de l'énergie.
Et oui, ça représente un tiers de la consommation d'électricité chez les usagers et le problème c'est que la consommation double tous les 4 ans.
Chouette.
Mais promis juré, le gouvernement veut déployer ces nouveaux systèmes à consommation constante.
Mais quand, Nathalie ?
Alors, les premiers boîtiers communicants, 300 000 au total, seront déployés au printemps prochain pour une expérimentation. Ils transmettront aux producteurs de courant la quantité d'électricité consommée et puis surtout la manière dont elle est utilisée.
Alors, depuis l'échec de Copenhague et les erreurs soulignées dans le dernier rapport du GIEC, les climato-sceptiques ont le vent en poupe. Alors, évidemment, il faut quand même pas confondre la météo qui est sur le pas de notre porte et le climat. Autrement dit, ce n'est pas parce qu'il fait froid que le climat de la planète, que la température moyenne ne continue pas de se réchauffer.
Oui, ça inquiète toujours puisque le Conseil économique pour le développement durable vient de lancer le premier étage de l'arsenal d'adaptation économique au changement climatique. Alors, c'est pas facile parce qu'on ignore quels seront exactement les effets régionaux du changement climatique à la virgule près. Le rapport sur l'adaptation trace un certain nombre de pistes, en se basant notamment sur l'expérience. Vous vous souvenez, les centrales nucléaires qui ont un petit peu chauffé pendant la canicule de 2003.
Elles n'ont pas aimé, on les a arrosées, c'était formidable.
Ah ouais, elles n'ont pas aimé du tout. Stéphane Algat est l'un des auteurs du rapport.
Suite à la canicule de 2003, qui avait été très compliquée à gérer, on a déjà vu des changements se produire. Typiquement, quand on arrête des centrales pour la maintenance, aujourd'hui, on n'arrête plus en été les centrales qui sont sur la côte, parce que ces centrales auront toujours de l'eau. On préfère arrêter les centrales qui sont sur des rivières, qui de toute façon risquent de manquer d'eau pendant l'été. Donc on a déjà des changements de comportement de la production électrique. Après, à long terme, est-ce qu'il ne faudra pas justement construire plus de production sur les côtes et moins sur les rivières ? Est-ce qu'il ne faudra pas changer les règles sur le partage de l'eau ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des conflits entre l'agriculture, la production électrique et aussi la préservation des écosystèmes, parce que s'il n'y a plus assez d'eau dans les rivières, c'est à la fin les poissons qui prennent. Donc ces conflits-là, il va falloir réussir à les régler et ça peut demander des changements institutionnels, comment est-ce qu'on partage l'eau, ou des changements techniques. On peut refroidir une centrale nucléaire avec plus ou moins d'eau selon les méthodologies qu'on utilise et selon combien on est prêt à investir dans le système de refroidissement. Peut-être qu'il faudra reprendre les centrales nucléaires pour les rendre moins consommatrices en eau.
Oui, mais quand on aura des poissons OGM, ça va s'arranger, tout ça. Bon, alors Nathalie, ça va coûter quand même pas mal d'argent.
Oui, mais l'adaptation au changement climatique, ça peut être aussi simple qu'un coup de crayon sur un document d'urbanisme.
Parfois, l'adaptation, ça coûte pas cher. Si on regarde les normes d'urbanisme à Paris, pendant 30 ans, les volets ont été interdits, alors qu'on sait bien que c'est le moyen numéro un qu'on utilise dans le sud pour lutter contre le chaud. Donc, il suffit de rayer une ligne dans un règlement pour permettre aux gens d'installer des volets et de s'adapter au changement climatique. Ça ne coûte rien, mais identifier ces mesures-là, c'est la première chose à faire, évidemment.
Clac, on ouvre, on referme les volets. Donc, et à quand ce fameux rapport sur l'adaptation de la France au climat ?
À la fin de cette année.
On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. On choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Être né quelque part,
Être né quelque part, pour celui qui est né, c'est toujours un hasard. Et des oiseaux de passage, ils savent où sont leurs nids, qu'ils rentrent de voyage ou qu'ils restent chez eux. Ils savent où sont leurs œufs. Être né quelque part, être né quelque part, c'est partir quand on veut, revenir quand on part. On choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher.
Maxime Le Forestier, un classique, on aime toujours sur France Inter avec Nathalie Fontrelle, donc suite de l'actualité de l'environnement avec cette eau tout à fait délicieuse, ambiance comme ça de source qui coule et cristalline boit la tasse. Le jury de déontologie de la publicité vient de donner raison à France Nature Environnement. La société est reconnue coupable de dénigrer l'eau du robinet.
Oui, alors il s'agit d'un jeu de cartes, genre 7 familles, j'y ai joué, hein, et on peut y jouer sur le site de la société, le site internet. Il s'adresse évidemment en priorité aux enfants, mais il est de nature à mettre en cause la qualité de l'eau du robinet.
Alors au départ, les questions sont plutôt correctes. Hein.
On y va là ?
Oui.
Allez, les bouteilles d'eau sont-elles recyclables ?
Oui.
Combien de bouteilles pour fabriquer un pull polaire ?
25-30.
27.
27, d'accord.
La différence entre l'eau du robinet et l'eau de source ?
Ah bah, la provenance.
Oui, parce que c'est une source protégée. Protégés pour l'eau de source, évidemment. Ce sont les lacs, les fleuves, les rivières pour l'eau du robinet, répond Cristaline. Elle oublie aussi d'ailleurs les nappes phréatiques. Oui. On apprend aussi que, je cite, dans le monde, l'eau du robinet est parfois fabriquée à partir du recyclage des eaux usées.
Alors genre, je tire la chasse et je me sers un verre d'eau dans la foulée,
c'est... Oui, alors évidemment, c'est faux. Mais l'affirmation, comme ça, mine de rien, permet de noircir un peu l'image de l'eau du robinet. En revanche, c'est vrai, il est possible de fabriquer de l'eau potable avec de l'eau souillée. Oui. Heureusement d'ailleurs, hein, pour les cas d'urgence humanitaire. Et de toute façon, une fois l'eau utilisée chez vous, dans votre logement, eh bien, elle est traitée, elle est rejetée dans le milieu naturel, elle est repompée plus loin pour fabriquer de l'eau potable. L'eau, en fait, est recyclée depuis la nuit des temps. La molécule d'eau que vous dégustez a été avalée et digérée par des organismes vivants depuis que l'eau est apparue sur Terre, y compris d'ailleurs lorsque vous ouvrez de l'eau en bouteille.
Mais les affirmations du minéralier ne sont pas fausses.
Alors, elles ne sont pas fausses, les informations ne sont pas inexactes, hein, dit le jury de déontologie de la publicité, mais elles sont tronquées, elles sont tendancieuses, et puis elles discréditent les messages sur la nécessité de réduire la quantité de déchets que nous jetons, parce que ouvrir une bouteille d'eau du robinet, ça fait quand même un déchet.
Ben voilà, et je rappelle simplement à nos amis qui habitent du côté de la source à Orléans, que leur eau du robinet est la même que celle qui est dans les bouteilles de cristalline. C'est la même provenance, et puis il y a quelques lieux comme ça en France. Déchets toujours avec vous Nathalie, avec le bilan de la récupération des déchets électriques et électroniques, les fameux D3E.
Les D3E, oui, vous savez que depuis novembre 2006, si vous achetez ce type d'appareil, eh bien vous payez pour son recyclage. C'est l'éco-participation et vous pouvez rendre un appareil similaire pour qu'il soit recyclé. La règle, c'est le 1 pour 1, un téléviseur hors service pour une télé neuve et pas, je sais pas moi, un lave-linge hors d'usage contre un sèche-cheveux par exemple. Ah oui. Ces appareils sont désormais déconstruits et recyclés. Alors où en est-on après près de 4 ans maintenant ? Écosystème est l'un des organismes en charge de la gestion de ce marché de la dépollution. Près de 280 000 tonnes d'appareils ont été récupérés et recyclés l'an passé. Écoutez Damien Lisée.
Les appareils de type frigo et les appareils de type machine à laver représentent environ 60% du gisement qu'on arrive à récupérer. Les 40% restants sont répartis à peu près avec 22% sur les écrans, qu'ils soient de tube cathodique ou qu'ils soient écran plat. Et le reste, les 18% restants, sont les petits appareils en mélange, de type cafetière, robot ménager, ce type d'appareil.
Est-ce qu'il y a des appareils que vous ne voyez quasiment pas ?
Alors, les téléphones portables, par exemple les GPS qu'on n'arrive pas à voir, et bizarrement aussi les ordinateurs portables qui, pour l'instant, n'apparaissent pas dans les déchets qu'on arrive à collecter. C'est facile de les conserver dans un tiroir où on a des informations cachées à l'intérieur et on ne veut pas que ça soit donné, donc les gens le gardent.
On recycle en fait 6 kilos par an et par habitant. C'est pas mal, mais c'est encore loin des 20 kilos qui sont mis chaque année sur le marché. Mais on va y arriver.
Attention Nathalie, baissez la tête.
Oh là là.
La douce mélodie de la nature. Eh ben quoi ? Les chasseurs ont tout de même le droit de pratiquer leur loisir en toute liberté.
Bah, les promeneurs aussi, non ?
Ah bah non, pas pour...
Si, c'est ce que dit la pétition qui a été signée par 251 667 personnes et qui a été remise au ministre de l'écologie pour réclamer l'interdiction de la chasse le dimanche.
Ah, encore cette vieille revendication.
Bah ouais, vous savez que la loi de 2000 avait instauré le mercredi sans chasse et puis la loi de 2003 a détricoté le texte, depuis on peut chasser le mercredi. Alors les associations relancent le débat sur l'insécurité et l'impossible cohabitation entre chasseurs et promeneurs.
Mais on va vous dire, on se tue entre nous, entre chasseurs, c'est ce qu'ils répondent.
Et bah pas toujours, parce que il y a eu au moins 2 morts lors de la dernière saison, répond l'ASPAS, l'association pour la protection des animaux sauvages, 2 morts qui n'étaient pas des chasseurs et 4 blessés aussi parmi les non-chasseurs. Et s'il n'y en a pas plus, fort heureusement d'ailleurs, c'est peut-être aussi parce que les promeneurs renoncent à sortir lorsque les fusils sont dehors. Les chasseurs en fait sont accusés de kidnapper la nature.
On va rappeler que la France est le pays européen où on chasse le plus longtemps, qui est le plus grand nombre d'espèces chassables. Et puis, alors évidemment, les chasseurs sont aussi les plus assidus aux élections, il faut bien reconnaître, donc ça aide parfois un petit peu. Alors c'est vrai qu'en 40 ans, on nous dit que la chasse a diminué par 2 ces accidents, ce qui est vrai. Mais comme il y a plus de 2 fois moins de chasseurs aussi depuis 40 ans, vous regardez, ça vous donne à peu près un chiffre à peu près constant. Est-ce qu'elle a des chances d'avoir du succès, cette pétition, Nathalie ?
Eh bien, on ne peut pas dire que Jean-Louis Borloo ait accueilli les écolos avec un grand sourire. Puis je vous rappelle qu'à l'automne dernier, le ministre de l'écologie a demandé aux chasseurs de tirer plus de sangliers pour limiter les dégâts dans les champs et dans les forêts.
Oui, parce qu'on le rappelle, donc la France est une immense basse-cour à sangliers, j'allais presque dire à ciel ouvert. Enfin voilà, ça pullule beaucoup. Et là aussi, il faut toujours s'intéresser donc à l'origine. Merci beaucoup Nathalie. Je ne vous dis pas bonne chasse, mais en tout cas
bon. Ah non.
Oui, c'est ça.
À bientôt Denis.
À bientôt.